Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans le podcast Minute Papillon. Jeudi, c'est notre rendez-vous, la bulle, qui parle de nous, de soi, de ce qui va moins bien. On va évoquer le burn-out, l'épuisement physique, émotionnel et mental lié au travail, même si on parle de plus en plus de burn-out aussi familial. Le burn-out peut être reconnu comme maladie professionnelle par l'assurance maladie sous des conditions strictes. La maladie doit être essentiellement et directement causée par le travail et elle doit entraîner une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25%. Pourquoi les femmes qui travaillent et qui ont des enfants sont les candidates idéales à ce burn-out? On en parle avec Bérangère Touchman, coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des femmes dans une transition professionnelle. Elle est aussi l'auteur de Working Mum chez Vuber. Première question à Bérangère Touchman, est-ce qu'on ferait pas un petit rappel de ce qu'est le burn-out?
La définition même officielle du burn-out, c'est l'épuisement physique, émotionnel et mental qui est le résultat d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc c'est finalement le burn-out, un stress chronique maintenu sur le long terme avec à un moment donné trop peu de temps de ressourcement par rapport au temps de tension et qui peut créer bien entendu à un moment donné une extrême fatigue. On a souvent entendu des gens qui disaient un matin je me suis retrouvée devant mon ordi puis j'ai plus pu regarder mes mails, j'étais bloquée. Donc ça on l'entend souvent, ou un matin j'ai plus réussi à me lever de mon lit. Maintenant, le burn-out, c'est pas du jour au lendemain que les symptômes arrivent, voilà, et on découvre comme un déclic qu'on est en burn-out. Souvent, c'est beaucoup plus progressif. Beaucoup de mères de famille sont en situation de burn-in, on appelle le burn-in l'antichambre du burn-out, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant et qui sont vraiment des signaux d'épuisement récurrents. Beaucoup de femmes sont en burn-in et se rendent pas compte qu'elles sont en train d'avancer de manière très menaçante vers ce burn-out où un jour, elles auront grillé complètement leurs réserves d'énergie.
Pourquoi les mères de famille sont les candidates idéales au burn-out ?
La vie d'une mère de famille aujourd'hui qui travaille ou même qui travaille pas, ou qui est en congé, en pause parentale, etc. La charge domestique est encore portée par les femmes. La charge domestique, la charge éducative des enfants, parce que parfois on a des jeunes enfants, mais on a aussi des grands, on a des fratries, donc tout ça, ça fait de la charge en plus. Les femmes investissent encore la responsabilité domestique du foyer. Donc ça, c'est les prérogatives du rôle de la mère aujourd'hui. Et à côté de ça, les mères, les femmes ont investi le monde du travail, un monde du travail qui a des exigences de productivité qui sont de plus en plus intenses avec, vous savez, la productivité, c'est la création de valeur entre les dépenses et les ressources. C'est-à-dire, c'est faire toujours plus avec toujours moins. Ça, on l'a tous entendu dans les entreprises. Donc, finalement, c'est produire toujours plus en allant puiser toujours au plus profond des ressources. On voit d'ailleurs qu'au niveau mondial, on arrive au bout de ce modèle hyper productiviste puisque les ressources naturelles, il n'y en aura bientôt plus. Et puis les ressources humaines, on voit que le burn-out, c'est la maladie chronique du moment. Donc, on arrive au bout d'un modèle, mais n'empêche qu'on est sur un point de bascule parce que les femmes, elles sont vraiment à un moment charnière parce qu'on porte la charge du travail, mais on ne se désengage pas pour autant de la charge domestique. Donc, bien sûr, on a peu finalement de moments de ressources puisque le temps est une denrée vraiment très rare chez les mères. On sait que les femmes dorment moins, les mères de famille, on sait qu'elles dorment 2 heures de moins en moyenne que leurs conjoints. On ne se ressource pas, on ne se rebranche pas sur le secteur. C'est pour ça qu'on est les candidates idéales, nous les mères de famille et notamment les mères de jeunes enfants.
Et je relancerai en disant que le mythe de la mère parfaite a encore de beaux jours. On en parle encore, même si on sait qu'on ne peut pas tout faire. Ce mythe d'une mère aimante auprès de ses enfants, dans le développement, mais aussi hyper productive au travail. Et puis, accessoirement, épilée de partout, super bombasse,
horrible.
Hyper en forme.
Les injonctions, c'est assez horrible en fait, quand on voit toutes les injonctions et tous les attendus de la société, de la culture vis-à-vis de nous. C'est bien sûr très compliqué à gérer parce qu'on n'a qu'un petit corps humain et que 24 heures dans la journée. Et puis de toute façon, c'est très injuste que nous, on ait apporté tout ça. Cette société qu'on dit patriarcale, nous qui avons un petit cœur féministe, en fait, on comprend que ça arrange bien le système patriarcal de garder les femmes estampillées foyer, mais n'empêche qu'il faut produire quand même par ailleurs.
Comment trouver un équilibre pour les mères actives ?
On parle beaucoup d'équilibre, on parle beaucoup de conciliation aussi. Pour moi, la conciliation, c'est un moyen de faire des choses en fait en parallèle ou d'articuler les choses. Et ça nécessite de faire des choix, bien sûr. Et l'équilibre, finalement, c'est le sentiment qu'on a, l'état dans lequel on se trouve quand on a réussi à opérer ses choix. De toute façon, je pense que la première prise de conscience à avoir quand on cherche l'équilibre, parce que le problème, c'est que quand on lit tout, enfin les magazines féminins, etc., en fait, ce qu'on nous explique, c'est comment bien s'organiser pour les repas, pour les courses, etc., comme si, finalement, ce manque d'équilibre était de notre propre défaut de savoir s'organiser. Or, ce n'est pas le cas. C'est la société qui est construite d'une certaine manière et qui fait que les femmes aujourd'hui ne sont pas entièrement responsables, ne sont que partiellement responsables de leur capacité à trouver l'équilibre ou pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui devons chercher l'équilibre et chercher les ressources, encore une fois, au fond de nous, pour trouver l'équilibre. Je dirais que si on pense que l'équilibre, c'est le résultat de choix qui ont été faits, et qui dit choix dit renoncement, ça veut dire qu'on va devoir se mettre à renoncer à faire des choses. On va devoir faire moins de choses ou les faire moins parfaitement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir commencer à s'intéresser à la notion de partage. Alors, je parle pour les mères de famille qui sont en couple, hein. Parce que pour les mamans solo, il y a un niveau de difficulté supplémentaire. Il y a vraiment, je pense, un audit à faire du partage du travail domestique. Quand je dis travail domestique, j'y mets le travail éducatif aussi. Tout ce qui constitue la prise de décision en lien avec le foyer. Le transport des enfants, la kermesse de l'école, les réunions parents-prof, tout ça, va falloir commencer à le partager aussi. Je dis pas déléguer involontairement, parce que si on dit délégation, déléguer les tâches ou le travail, ça voudrait dire que de base, le travail nous appartient. Or non, c'est un partage et non pas une délégation. Donc ça, c'est la première clé, c'est que pour l'équilibre des femmes aujourd'hui et des mères, ça va venir du collectif, ça va pas forcément venir de l'individuel. Parce que nous sommes toutes très bien organisées, nous sommes toutes ultra flexibles et nous sommes toutes ultra adaptables et on sait trouver des solutions et on est très créatives pour trouver à peu près toutes les solutions et répondre aux besoins de tout le monde. Donc ça, on sait faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a besoin des conjoints, on a besoin du service public, je pense notamment au mode de garde, etc. On a besoin d'un système qui nous permet, nous, de prendre notre place et de ne pas nous sentir écrasés et de nous retrouver. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est nous retrouver écrasés sous la charge.
Il y a aussi accepter l'imperfection. Parce que si le mythe de la mère parfaite est une injonction de la société, c'est aussi une auto-injonction. Nombreuses sont les mères qui visent consciemment ou inconsciemment, à cette perfection. Que ce soit la perfection dans le travail, que ce soit la perfection à la maison. Et vous dites aussi, accepter cette imperfection, ce lâcher prise dont on entend parler souvent, il faut aussi, à un moment, l'accepter.
Oui, mais complètement. Puis déjà, c'est de prendre conscience qu'on nous fait croire que c'est comme ça. On nous fait croire qu'il faut avoir le brushing de Brie-Vandecamp et d'aller sonner chez les nouveaux voisins en leur apportant un plateau de cookies bien chaud. C'est pas comme ça, en fait, la vie. C'est pas comme ça qu'on peut tenir, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment d'accepter d'être imparfaite et puis de toute façon se dire que la perfection, ça doit même pas être un sujet. On n'y arrive pas, en fait. C'est tout à fait injuste de chercher à vouloir tout faire et tout être. Donc, effectivement, c'est un mythe. C'est bien dommage qu'on se construise et qu'il y ait beaucoup de manque de confiance ou de mal-être aussi chez les femmes et notamment les mères, hein, qui se construisent autour de ce mythe, ce truc après lequel on court et qui n'est absolument pas envisageable dans la réalité.
Sur la question du sport, tous les médecins diront « faites du sport, soignez votre alimentation, soignez votre sommeil pour être en forme, pour pouvoir résister et ne pas tomber dans un burn-out, déjà dans un burn-in et un burn-out ouais. ». Mais nombreuses sont celles encore qui mettent l'heure de pilates ou l'heure de natation comme une obligation dans un agenda surchargé.
Oui, bah oui, c'est se faire du mal pour rien. Alors bien sûr que le sport, c'est super important, l'exercice physique, prendre soin de soi, etc., super important. Mais effectivement, si c'est une case à cocher en plus sur la to-do list, le cours de yoga, il est un peu tendu, quoi. Ça me fait penser quand même que beaucoup de mères sont déconnectées de leurs besoins. Et moi, j'aurais envie de dire, si votre besoin, c'est d'aller vous défouler, c'est en transpirant parce que vous allez courir, vous allez taper un sprint et ça va vous faire du bien, et, ou alors au contraire, vous allez entrer dans une méditation et ça va vous décharger, etc. Ben, si vous sentez que c'est ça votre besoin, faites-le. Par contre, se rajouter un truc à faire en plus sur la to-do list, c'est compliqué à tenir, ou alors il faut en enlever un autre. Si on se rajoute une contrainte, il faut en enlever une autre. Et si, ça, c'est si c'est une contrainte, le sport. Parce que bah, moi, par exemple, je ne suis pas sportive, effectivement. Bon. Mais par contre, il faut bien penser qu'à un moment donné, quand vous remplissez un verre d'eau, forcément, quand il est plein, il déborde. Donc, juste visualiser ça et voyez si ajouter quelque chose en plus, c'est jouable ou ça va faire déborder le verre. On dit qu'une grenouille, vous la mettez dans une casserole. Enfin, c'est pas super, super joyeux à visualiser, mais vous mettez une grenouille dans une casserole et vous faites monter à petit feu la température de l'eau. La grenouille va se mettre à cuire et puis elle ne va pas le sentir parce que la chaleur va être très progressive. Alors que si vous avez une casserole d'eau bouillante et que vous plongez une grenouille dedans, elle va le sentir directement. Mais vous voyez, c'est pareil pour l'épuisement. On est finalement dans un quotidien où on a la tête dans le guidon, puis on est dans un environnement qui et un épuisement qui peut s'installer vraiment petit à petit de manière assez vicieuse. Et on ne le sent pas arriver parce que finalement, on s'accoutume à la difficulté, on s'accoutume à la surcharge parce que le temps passe tellement vite. Moi, j'ai une cliente la dernière fois qui me disait « J'ai l'impression d'être sur un fil, j'ai deux seaux, j'ai un seau plein d'eau dans chaque main et je sais que si j'en lâche un, ben, je perds l'équilibre et je tombe. » Parce qu'on est sans arrêt sur le fil. Les mères de famille aujourd'hui, on porte tellement de choses qu'il est très difficile de lâcher le pilote automatique parce qu'on est en mode survie parfois. Quand on ne dort pas la nuit, qu'on a des enfants, parce que ça c'est important hein, dans les moments de récupération. Quand on a des enfants en bas âge qui vous font 3-5 réveils par nuit, sur le long terme, on ne peut pas récupérer. Donc... important, quand on se met une contrainte en plus, d'en enlever une par ailleurs. Qu'est-ce que j'enlève avant d'en rajouter une ?
Avant l'entretien, je vous ai dit, il faut donc penser un peu égoïste. Et vous m'avez repris en disant, mais non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Parce que j'ai un biais en me disant, ah, si je prends du temps pour moi, c'est de l'égoïsme. Alors qu'en fait, non.
Bah, c'est-à-dire que quand on devient mère, il y a un truc de la société et de notre culture qui fait qu'on commence à se brancher vers le besoin des autres. Et en fait, quand on est branché vers les besoins des autres avant tout, bah, c'est normal parce qu'on a mis au monde des petits êtres qui n'étaient pas autonomes au début et puis qui ne peuvent pas mettre leurs chaussures tout seuls, qu'il faut changer, etc. Donc, à un moment donné, il n'y a que nous et notre conjoint-conjointe qui pouvons porter cette responsabilité. Et puis, ils grandissent, mais on n'a pas débranché notre focalisation sur les autres. Et puis, c'est pareil que la grenouille, c'est qu'on s'accoutume à ne plus penser à soi et on perd contact avec soi-même. On s'oublie et on oublie nos besoins et on oublie de les honorer et on oublie de se récompenser. On oublie de se dire que ce qu'on fait, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même plutôt bien, même tout ce qu'on arrive à faire. Et du coup, on arrive dans un truc où on se dit que ça, c'est égoïste de penser à soi. Mais non, quand vous prenez l'avion, au temps où on pouvait prendre l'avion, quand on nous disait « N'oubliez pas de mettre le masque en cas de dépressurisation de l'appareil, mettez bien le masque sur votre nez avant de le mettre sur le nez de votre enfant. » Ça paraît du bon sens à tout le monde. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il le disait à chaque fois, en fait. Ben non, c'est pas du bon sens pour tout le monde. Parce que, bah oui, nous, on est capable, en étant complètement déconnecté de nos besoins, on est capable de mettre le masque sur notre enfant avant de le mettre sur nous-mêmes, en fait. C'est une image, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc non, c'est pas égoïste, c'est du bon sens que de se dire si effectivement on porte la charge familiale, domestique, etc., bah, vaut mieux qu'on soit en forme quand même. Parce que le jour où maman, elle peut plus se réveiller parce qu'elle peut plus mettre un pied devant l'autre parce qu'elle est en burn-out, comment ça va se passer ? Bon, les autres trouveront probablement des ressources, mais l'idée, c'est de pas en arriver là, quoi.
Bon, donc on terminera sur le fait de se sauver soi-même avant de sauver les autres.
Se protéger, être connecté à nos propres besoins, c'est hyper important, ouais.
Merci à Bérangère Touchman pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est le podcast signé 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les applis de podcast. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi à audio@20minutes.fr. On se retrouve demain vendredi pour notre rendez-vous Tout s'explique qui parle d'intimité. D'ici là, portez-vous bien.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.